Pour comprendre et débattre, une rubrique d'information proposée par Paul Masson. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes habitant arrageois, membre de Culture et Liberté et d'Attaque. Alors depuis quelques semaines, vous développez ce thème de l'éducation populaire à cette antenne. La semaine dernière, on a parlé des mouvements d'éducation populaire qui se sont développés entre deux guerres, donc la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, et le mouvement scoutisme. Aujourd'hui, on en arrive à 1936. Alors pourquoi 36 ? C'est une date importante pour tout ce qui touche à l'éducation populaire.
1936, c'est une date importante par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier et de la société française. On peut dire 36, ça va être un espoir que la crise de 1929 soit réglée sur un autre modèle que le modèle du capitalisme et sur un autre modèle que celui de l'État soviétique. Il y a véritablement un espoir de l'arrivée du Front populaire comme... Enfin, le camp des travailleurs sera pris en compte par le gouvernement. C'est un changement radical, parce que si on regarde l'histoire de la France, depuis 1789, pratiquement à aucun moment, les travailleurs n'ont eu le pouvoir. Il n'y a eu qu'une période où ils ont réussi à prendre le pouvoir, ça a été la Commune de Paris. La Commune de Paris, 1871, et ça s'est soldé 13 700 condamnés aux travaux forcés, 3 000 condamnations à mort, une fois que le tiers reprend le pouvoir. C'est-à-dire que l'idée pour les travailleurs, jusque-là, on n'a jamais eu le pouvoir, et 36, c'est l'espoir que, ça y est, on a le pouvoir. Et ça a comme premier effet la mise en place de la grève générale. Des grèves générales dans l'histoire de la France, on n'en a pas eu 50, on en a eu une en 36 et on en a eu une en 68. Et là, on a une grève générale qui repose sur l'idée les ouvriers plus le gouvernement peuvent obtenir quelque chose. On a une sorte de changement de camp. Le gouvernement, maintenant, est dans notre camp, alors que jusque-là, le gouvernement a toujours été contre les travailleurs. Je crois que ça, c'est un changement radical pour comprendre 36 et les effets sur l'éducation populaire.
Ah oui, qu'est-ce que ça change en ce qui concerne l'éducation populaire ?
Alors, au niveau de l'éducation populaire, on a vu que c'était une culture qui s'était créée progressivement pour essayer de construire un autre ordre social qui serait plus favorable aux travailleurs. Et 36, cette culture-là va être reconnue. On va avoir un gouvernement qui va mettre en place un secrétariat d'État au sport et aux loisirs et qui va dire ce que l'éducation populaire fait peut être un moyen de faire en sorte que la majorité des gens, les ouvriers, en particulier les ouvriers, mais la majorité des gens, puissent se cultiver, puissent développer un monde et exercer leur pouvoir de citoyen. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la reconnaissance de l'éducation populaire telle que Condorcet le disait. Condorcet n'avait jamais parlé d'éducation populaire, mais il disait qu'il y a nécessité que les citoyens puissent exercer leur pouvoir de citoyen. Et là, il y a le gouvernement qui reconnaît ça. Ça, c'est un changement dans l'histoire de l'éducation populaire, ça va être un moment clé.
Alors, reconnaissance, donc concrètement, ça veut dire aussi des subventions aux associations, c'est ça, hein ?
Alors, effectivement, la reconnaissance, ça va être, on va valoriser ça et, entre autres, favoriser les associations qui développent de l'éducation populaire en leur donnant des subventions. C'est la première fois.
Quelles actions se mettent en place à ce moment-là ?
Le secrétariat de l'État de Léo Lagrange, hein, qui est dans le gouvernement de Léon Blum, on a parlé, financer des associations et développer tout ce qui est le domaine du sport, du tourisme, et aussi tout ce qui est les pratiques artistiques, les pratiques culturelles amateurs. L'idée, ce n'est pas de financer des artistes, mais de faire en sorte que les gens puissent être artistes, puissent pratiquer des activités artistiques, puissent pratiquer des activités touristiques, sportives. Au niveau du tourisme, c'est à ce moment-là que le secrétariat d'État va passer un contrat avec la SNCF pour le billet congé payé. C'est-à-dire que n'importe qui puisse faire valoir une fois dans l'année un tarif, et c'est 40% de réduction sur le billet SNCF. C'est-à-dire qu'on veut développer le tourisme. On veut que les travailleurs puissent profiter du tourisme, puissent profiter des sports et puissent profiter de la culture. On a cette idée et qui est tout à fait là. C'est un signe de reconnaissance de l'éducation populaire, reconnaître que les gens, en s'organisant, peuvent faire la vie qu'ils veulent, peuvent prendre pouvoir sur leur vie.
Alors, 36, bon, ça n'est pas que ça, mais c'est aussi les premiers congés payés et puis les 40 heures. Alors ça aussi, ça modifie la donne en ce qui concerne l'éducation populaire.
Alors, effectivement, les congés payés, les 40 heures, c'est quoi? C'est la valeur produite par les travailleurs. Il y a une partie qui va leur être restituée sous forme de plus de temps libre. Et pour se cultiver et pour être soi-même dans une société où le travail était particulièrement, le travail était encore plus aliénant. Oh, peut-être qu'il ne l'était pas plus que maintenant. Il était en tout cas bien très aliénant. C'était en dehors du temps de travail qu'on pouvait développer ses propres capacités. Et le fait qu'il y ait du temps libre, eh ben, on dispose de plus de temps. On avait vu que les formations, par exemple, à l'éducation populaire, étaient faites les dimanches, en soirée. Si on a plus de temps, les formations, on pourra disposer de plus de temps pour faire ça. Deuxième aspect, c'est que le temps libre peut être un moyen d'émancipation. On peut utiliser son temps libre en vivant autre chose qu'une situation d'aliénation. C'est en 1937 que va être créée la première auberge de jeunesse. De dire, utilisons les loisirs pour nous-mêmes, pour vivre la vie qu'on a envie de vivre.
Alors oui, justement, vous parlez d'auberge de jeunesse. Quel lien vous faites entre l'éducation populaire et l'auberge de jeunesse?
Le lien, au niveau des auberges de jeunesse, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un certain nombre de jeunes qui vont s'organiser pour aller vivre des loisirs ensemble. À l'occasion de cette organisation ensemble, à l'occasion de la vie qu'on va passer ensemble, ça va être aussi un moyen de devenir citoyen. On va apprendre à vivre ensemble. On va apprendre à penser des relations entre nous qui ne sont pas sous l'autorité de quelqu'un d'autre, puisque ça va être entre jeunes. Et là, c'est une occasion de culture, de développer des capacités, de développer toute une culture.
Alors un mot encore sur ces auberges de jeunesse, ça se développe donc à ce moment-là et qui est-ce qui met en place ça?
Alors, la première auberge de jeunesse, on va retrouver quelqu'un dont on a déjà parlé, Marc Saunier, celui qui avait créé le Sillon et qui avait obéi au pape quand il lui avait dit qu'il fallait arrêter d'aller rencontrer les ouvriers. Il va continuer d'avoir son action de type populaire et il va créer la première auberge de jeunesse qui, en 1937, comme les auberges de jeunesse vont démarrer, mais l'explosion des auberges de jeunesse, le développement des auberges de jeunesse apparaîtront seulement après-guerre.
Paul Masson, merci. On va peut-être annoncer le programme de la prochaine séquence pour comprendre et débattre la semaine prochaine.
Alors, la semaine prochaine, on continuera avec la période de la guerre. Qu'est-ce qui va se passer à l'occasion de la guerre?